Merci Anne, à 12h45, en effet la grande table d'été comme tous les jours en deux parties. La première sera une table ronde spéciale Bon Gros Géant. L'adaptation du roman de Roald Dahl par Steven Spielberg sort aujourd'hui et puis le portrait sera celui du compositeur Philippe Hersant. Mais tout de suite, il est 12h30 sur France Culture, c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. François Hollande en Dordogne précise le projet de recours aux réservistes de l'armée et lance un nouvel appel à l'unité nationale face au terrorisme, on va l'entendre, ainsi que le compte-rendu de Violette Voldoire. L'exécutif confirme la mort de 3 militaires français tués en service commandé en Libye, précision avec Camille Revel. Les députés français votent la prolongation pour une durée de 6 mois de l'état d'urgence. Le projet passe maintenant au Sénat où la majorité de droite entend encore le durcir, suivi de ses débats avec Stéphane Robert. Erdogan rentre à Ankara pour un conseil de sécurité nationale. Il doit y annoncer ce midi une décision qualifiée par lui d'importante. On verra tout cela avec Nabila Hamel. Et puis au troisième jour de la convention nationale du Parti républicain, Donald Trump a été officiellement investi. Il espère maintenant souder son camp avant d'affronter Hillary Clinton en novembre. Commentaire dans cette édition avec l'historien François Durpaire. François Hollande était donc en déplacement ce matin à Saint-Astier, en Dordogne, pour évoquer le thème de la réserve opérationnelle que les autorités veulent impliquer davantage sur le terrain et en particulier dans la lutte antiterroriste. Le chef de l'État y rencontrait donc de jeunes réservistes de la gendarmerie et puis dans un discours, il a appelé une nouvelle fois à l'unité du pays. On l'écoute.
Le recul du terrorisme ne suppose pas le recul du droit. Ceux qui le prétendent sèment le trouble dans les esprits, dans un climat de peur et de désarroi que nous connaissons. Pour conjurer la menace, nous devons plus que jamais préserver notre cohésion nationale. Nous devons faire prévaloir le rassemblement sur l'essentiel. Nous devons prendre toutes les mesures compatibles avec nos règles et notre droit. Nous devons être unis, unis au-delà de tout ce qui peut parfois nous séparer, unis, le peuple de France lui-même, unis dans une même cohésion, dans une même réponse, parce que ce que veulent faire les fanatiques, c'est nous opposer, nous séparer, nous fragmenter. Alors, je vous l'assure, nous ne leur offrirons pas cette opportunité. Le terrorisme ne nous fracturera pas. La cohésion sera notre réponse et l'engagement notre force.
Voilà donc pour les propos généraux du chef de l'État. Pour ce qui est de l'appel aux différentes réserves maintenant, qui était le thème de ce déplacement, François Hollande parle d'une garde nationale qui serait donc en train de se constituer. Violette Voldoire, bonjour.
Bonjour.
De quoi s'agit-il précisément?
Aujourd'hui, ce sont 56 000 hommes et femmes aux missions et aux compétences diverses, mobilisables immédiatement, c'est-à-dire formés. Ils sont mobilisables par la police, la gendarmerie ou l'armée. La loi de programmation militaire prévoit déjà qu'ils devront être plus nombreux d'ici 3 ans. Dans l'armée, ils passeront ainsi de 28 000 réservistes aujourd'hui, à 40 000 à l'horizon 2019. Alors qui sont-ils? Ce sont d'anciens gendarmes, militaires ou policiers, mais aussi des volontaires civils sur le terrain. Ils suppléent aux missions des forces de l'ordre. Pour la gendarmerie, par exemple, vêtus d'un uniforme, ils peuvent procéder à des contrôles routiers ou à des contrôles d'identité. Du côté de l'armée, ils sont déjà 500 à participer aux missions de surveillance Sentinelle. Sont-ils armés? Dans leur grande majorité, non. Seuls certains réservistes militaires, anciens soldats ou officiers à la retraite, ont le droit de porter une arme. Les anciens policiers et gendarmes, eux, portent l'uniforme mais ne sont pas armés. Quant aux autres, ce sont des volontaires civils sous contrat. Ils sont formés pendant 15 jours au moins avant de pouvoir aller sur le terrain. Et ces volontaires, ils sont de plus en plus nombreux. Les demandes affluent dans les centres d'information et de recrutement de la gendarmerie, les CIRFA. On enregistre jusqu'à 10 fois plus d'appels qu'à la normale depuis le 14 juillet.
Merci Violette Voldoire. François Hollande qui confirme par ailleurs que 3 militaires français ont été tués en service commandé en Libye, ce qui vient rappeler évidemment la présence de forces spéciales françaises dans ce pays pour lutter contre l'État islamique. Camille Revel, bonjour.
Bonjour.
Alors les sous-officiers français auraient été tués, c'est François Hollande qui l'a dit, dans leur hélicoptère.
Et après l'annonce ce matin par le ministère de la Défense du décès de ces 3 militaires, ce midi, François Hollande évoque, vous le disiez, un accident d'hélicoptère, sans préciser la date ni le lieu. Ces soldats mener des opérations périlleuses de renseignement, dit le chef de l'État. Cela contredit donc les premières informations avancées hier par des responsables libyens, annonçant sous couvert d'anonymat que l'hélicoptère avait été abattu dimanche par une milice islamiste près de Benghazi dans l'est du pays.
Est-ce qu'on a une évaluation du nombre de combattants français sur place et aussi des précisions peut-être sur leur mission?
Alors pour le nombre de combattants, non. Pour ce qui est des missions, les opérations de renseignement sont confirmées par François Hollande. Ensuite, connaissant le spectre d'activité des forces spéciales françaises, elles peuvent aussi former des armées et milices locales libyennes. Elles peuvent aussi participer directement aux opérations en accompagnant des unités qu'elles ont formées, des raids directs pour reprendre certaines zones aux djihadistes. Et puis enfin, elles peuvent faire aussi du guidage de frappes aériennes.
Alors dernière question, il faut dire un mot aussi évidemment du contexte. On parle généralement d'un recul de l'État islamique sur plusieurs fronts. Est-ce que c'est aussi le cas en Libye?
Pas vraiment. C'est vrai, l'étau se resserre autour de Daesh dans son bastion de Sirte au centre du pays. Les forces libyennes assiègent les islamistes depuis le début du mois. Mais il y a un autre front, celui de Benghazi, et une autre inquiétude, celle de l'arrivée de djihadistes partis d'Irak ou de Syrie, là où Daesh perd du terrain. Enfin, autre problème qui favorise la montée en puissance de Daesh en Libye, l'instabilité du pays minée par les luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi. Une réunion consacrée à la Libye sous l'égide de l'ONU s'est achevée hier à Tunis sur un constat d'échec. Impossible d'unifier l'armée libyenne.
Camille Revel, merci. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, annonce également ce matin des préparatifs pour une attaque coordonnée, dit-il, de la coalition internationale contre l'État islamique à Mossoul, donc en Irak. Mossoul, capitale du califat, donc dans cette partie irakienne de son territoire. À l'Assemblée, cette nuit, l'Assemblée nationale, les députés votent la prolongation pour une durée de 6 mois, finalement, de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015. 489 voix, donc très large majorité, contre 26 et 4 abstentions. Le projet de loi va passer maintenant en commission, puis en séance au Sénat, où la majorité de droite entend d'ailleurs le durcir. Le chef de file des députés socialistes à l'Assemblée, Bruno Leroux, disait toutefois que il se félicitait globalement de la tenue des débats, malgré les polémiques qui ont suivi l'attentat de Nice. Stéphane Robert, droite et gauche devraient assez facilement, sans doute, trouver un accord sur un texte.
Oui, puisque dès lors que François Hollande a fait machine arrière tout en proposant une prorogation de l'état d'urgence, après avoir expliqué quelques heures plutôt qu'il était temps d'y mettre fin. La droite, en l'occurrence le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, avait indiqué qu'elle allait bien évidemment la voter, qu'il n'était pas question pour elle de s'y opposer. Ensuite, les grands ténors du parti, en l'occurrence Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui commencent à se livrer une bataille féroce en vue de la primaire, ont voulu se démarquer. D'abord Alain Juppé, qui a indiqué dans un brusque accent sécuritaire que si tous les moyens avaient été pris, cette attaque aurait été évitée. Ensuite, Nicolas Sarkozy s'y est mis à son tour en émettant une dizaine de propositions pour durcir l'état d'urgence, notamment des choses complètement irréalisables, puisque contraires à l'état de droit garanti par la Constitution, comme par exemple l'enfermement dans des centres de rétention de personnes fichées par les services de renseignement, sur la base du soupçon donc. Le député Georges Fenech résume la chose en ces termes dans une interview ce matin à Valeurs Actuelles. Finalement, ce qu'il faudrait, c'est un Guantanamo à la française, dit-il. Tout ça a donné lieu à de vifs échanges entre Manuel Valls et Laurent Wauquiez à l'Assemblée la nuit dernière. Mais globalement, vous avez raison, en dehors de ces batailles de posture, le résultat du vote, 489 voix pour, indique que droite et gauche se rejoignent sur la réponse à apporter. Et selon ce que votera le Sénat à majorité de droite ce soir, il pourrait encore y avoir quelques évolutions, a indiqué le gouvernement.
Merci Stéphane Robert. 12h38, le contre-coup d'État de Recep Tayyip Erdogan. Dernière mesure en date qui ont été prises ce matin. Interdiction de toutes les missions à l'étranger pour les universitaires. Et puis l'accès au site d'information Wikileaks également qui a été suspendu. Le chef de l'État turc est rentré pour la première fois à Ankara ce matin. Donc première fois depuis le putsch avorté. Il préside en ce moment un conseil de sécurité nationale. Puis il y aura un conseil des ministres. Monsieur Erdogan a dit hier qu'une décision importante allait être annoncée après ce conseil de sécurité. Est-ce qu'on en sait un peu plus? De quoi pourrait-il s'agir, Nabil Hamel?
Non, ça va tomber d'un moment à l'autre, certainement. Alors on se demande quel tour de vis supplémentaire pourrait donner le président turc, lancé dans une purge à tous les étages depuis samedi. Il avait laissé entendre que les militaires ou les personnes qui ont pris part à ce coup de force le paieraient très cher. Le rétablissement de la peine de mort était envisagé. Les autorités turques, qui n'ont cessé de demander à la population de maintenir une pression dans la rue, suggéraient même qu'une telle demande pourrait venir du peuple. Ce matin, des responsables gouvernementaux affirmaient qu'un général sur 4 était impliqué dans le putsch. D'autres mesures pourraient donc concerner le dispositif militaire à renforcer ou une réorganisation de l'armée. La réponse est en tout cas sans précédent dans l'histoire de la Turquie. Des milliers de militaires arrêtés, des magistrats arrêtés ou révoqués, même traitement pour 1577 doyens d'université et interdiction d'exercer faite à 21 000 enseignants des établissements privés, un domaine que l'on dit proche de l'opposant Gülen. Il y a aussi le secteur de l'audiovisuel qui n'est pas épargné, le cabinet du Premier ministre non plus, de même que la direction des affaires religieuses. Ce matin, ce sont les universitaires qui ont été interdits de mission à l'étranger et ceux qui y sont priés de regagner rapidement le pays. Le site Wikileaks a quant à lui été bloqué par les services de communication turcs. En clair, des purges de grande ampleur pour l'universitaire Ahmet İnsel, repris par l'AFP. La réaction du pouvoir turc est celle d'une bête blessée qui a encore peur d'une réplique du coup d'État. Il ajoutera que c'est aussi le signe que le pouvoir se préparait à de telles purges et a saisi l'occasion.
Nabila Hamel, nous sommes au troisième jour de la convention nationale du Parti républicain. Donald Trump a officiellement été investi la nuit dernière comme prévu pour la course à la Maison Blanche. Il espère maintenant souder son clan avant d'affronter Hillary Clinton. Ce sera donc pour novembre prochain. Avant le grand show final, demain jeudi, l'homme d'affaires new-yorkais cherche à consolider son emprise donc sur un parti que sa candidature avait parfois assez profondément divisé. On est en ligne avec l'historien François Durpaire. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelle mesure cette convention de Cleveland a atteint cet objectif de rassembler le clan républicain ?
Alors, sur le fait de décider Donald Trump, c'était déjà décidé la semaine dernière quand l'établissement du parti avait refusé de changer les règles. Donc, on savait que de toute façon, Trump allait être le candidat. Maintenant, effectivement, vous avez raison. La question, c'est jusqu'à quel point le processus d'unification du parti autour du candidat allait fonctionner. Alors, vous avez vu, d'abord, il y a les grands absents. Il n'y a pas les anciens présidents, l'ancien président. Il n'y a pas les deux derniers candidats. Mitt Romney et John McCain ne sont pas venus. Et donc, Donald Trump a été obligé de remplacer. Il a remplacé par des membres de sa famille. Vous avez vu, là, c'est un peu le jeu des sept familles Trump. Melania, Tiffany, Eric, Ivanka va s'exprimer demain. Est-ce que ça peut compenser l'absence de ces grands leaders républicains? C'est très compliqué. Et ce qui risque de se passer, vous avez vu, il a choisi Mike Pence, le gouverneur de l'Indiana, comme colistier, il serait vice-président si Donald Trump était président. Eh bien, ça, c'est un signe fort. Pourquoi? Parce que Mike Pence est celui qui doit apporter à Trump un certain nombre de leaders républicains qui lui manquent. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Donald Trump va passer les prochaines semaines à essayer d'unifier son parti ou est-ce qu'il va essayer plutôt d'élargir son électorat? Ça risque d'être compliqué de faire les deux.
Rassembler sa famille politique, effectivement, c'est plus difficile que rassembler sa famille tout court, sans doute. Quoique, François Durpaire, merci beaucoup, spécialiste des États-Unis, consultant pour ce journal de France Culture. La première ministre britannique, Theresa May, informe le président du Conseil européen, Donald Tusk, que le Royaume-Uni renonce à la présidence tournante du Conseil de l'Union de juillet à décembre 2017. Londres devait initialement assumer cette présidence, donc après Malte et l'Estonie. La Belgique se déclare prête à prendre la relève. Madame May se rend aujourd'hui et demain à Berlin et Paris pour discuter des modalités du Brexit, où l'on reparle des travailleurs, du problème des travailleurs détachés, salariés qui sont envoyés dans un autre pays européen en vue d'un travail temporaire. Des députés français ont adopté une proposition de résolution européenne qui vise à soutenir un projet de directive en débat actuellement à Bruxelles pour mieux lutter contre le dumping social qui est lié au détachement de ces travailleurs. C'est une directive qui est basée sur le principe à travail égal, rémunération égale, qu'il n'y ait donc plus de dumping de différence. Mais il y a 11 pays européens, dont 10 pays de l'Est, qui bloquent pour l'instant le processus législatif. Apparemment, la Commission semble vouloir passer au-delà de ce blocage, mais Cécile de Kervas-Douai, on peut bien s'interroger sur le fait de savoir si la guerre du plombier polonais, fameux plombier, reprend maintenant en Europe.
En fait, la révision de cette directive sur les travailleurs détachés était prévue de longue date, hein, parce que le texte d'origine, qui dit donc qu'un travailleur détaché doit être payé au moins au salaire minimum du pays qui l'accueille, date quand même de 1996. Alors depuis, le nombre de travailleurs détachés a énormément augmenté en Europe pour atteindre 2 millions de personnes en 2014. Or, dans certains cas, ces travailleurs sont souvent synonymes de dumping social, puisque certains d'entre eux sont aujourd'hui payés à 50% de moins que les travailleurs locaux. Pourquoi ? Parce que la rémunération ne se résume pas seulement au salaire, surtout dans le secteur de main-d'œuvre à bas coût. Il y a bien sûr les primes, le 13e mois, et puis aussi l'ancienneté. Alors, poussé par les pays qui accueillent le plus grand nombre de ces travailleurs détachés, à savoir l'Allemagne, la France et la Belgique. La Commission a donc, dès le mois de mars dernier, proposé cette réforme à travail égal, salaire égal. Mais 10 pays de l'Est, plus le Danemark, ont lancé de leur côté en avril une procédure de carton jaune qui dit que ce n'est pas du tout à l'Europe de légiférer là-dessus, mais à chaque nation. La France, le 13 juillet dernier, a donc répondu en allant encore plus loin contre le dumping social et en demandant que le travailleur détaché paye les mêmes cotisations sociales que le local, et surtout en interdisant le détachement d'intérim. La France a par ailleurs menacé aussi de ne pas appliquer les règles européennes sur le sujet si le groupe du carton jaune l'emportait à la Commission. Alors ça ne sera sans doute pas nécessaire puisqu'aujourd'hui la Commission européenne insiste sur la nécessité de révision de cette directive du travailleur détaché. Reste ensuite à la faire adopter et c'est là le hic parce qu'il faut une majorité qualifiée au Conseil européen qui réunit donc les chefs d'État membres de l'Union et au Parlement européen. Et ça, évidemment, c'est loin d'être gagné.
Cécile de Carvaz-Doué, merci. La météo, les températures en baisse progressivement par l'ouest avec de la chaleur du soleil qui reste au programme quand même. Donc sur la façade est et sur les régions proches de la Méditerranée, 24 à 28 degrés près des côtes, 29 à 33 sur une moitié ouest et encore 33 à 36 sur l'est. Juste 30 secondes, Lucille, si vous me les accordez pour lire une lettre qui m'a envoyée un très jeune auditeur. Je m'appelle Alain, j'ai bientôt 9 ans, j'habite à Tavernes. Je suis à l'école Pasteur. Je vous écris car je voudrais vous poser une question. Le matin et le midi, quand je ne vais pas à la cantine, j'entends très souvent à la radio que vous parlez souvent de choses tristes. Alors je ne veux pas dire que ce n'est pas bien ce que vous dites, mais je veux dire que des fois, il faudrait un peu changer de sujet. Si vous avez le temps, j'aimerais bien que vous me répondiez en m'expliquant pourquoi vous ne parlez pas de choses joyeuses.
Mais ça tombe très bien cette petite lettre. Émission spéciale Roald Dahl dans la grande table.
Voilà, bah écoutez Lucille Comeau, je vous laisse donc. Le prochain journal est à 19h. Cette édition a été réalisée avec François-Charles Domergue. C'est la grande table d'été dans un instant.